Vous êtes sur Radio IDS Montréal. Je suis en compagnie d'Alain Charbonneau, un résident de l'île qui nous revient du Mexique. Alors, comment s'est passé votre séjour?
Oui, bien, très bien.
Oh, c'est bien parti.
C'est oui. Écoutez, c'est un séjour de presque 3 mois sur le Pacifique, enfin à Acapulco, une destination qui est un petit peu prisée des Québécois, mais il y a beaucoup d'autres destinations intéressantes. Et c'est un pays fascinant, le Mexique.
C'est une destination où vous retournez souvent?
C'était le quatrième hiver que j'y passais. Mais je compte en passer d'autres.
Est-ce qu'il y a d'autres destinations, les deux, trois destinations les plus prisées peut-être? Ou...
Ah, bien sûr, il y en a d'autres. Il y en a des beaucoup plus fréquentés qu'Acapulco, qui a eu son heure de gloire dans les années 60, 70, 80. Et après ça, ça a périclité complètement. Et c'est Cancun qui est la grande destination,
Oui, c'est le
évidemment,
nom.
sur les Caraïbes. Okay. Et ça, ben, pour vous donner un ordre de grandeur des destinations, là, Cancun, c'est 270 vols internes ou externes, étrangers par jour. 270. Et il y a l'aéroport, un nouvel aéroport qui est à proximité, Tulum. Donc, la péninsule du Yucatan, c'est très, très prisé. Du tourisme américain, canadien et européen, beaucoup aussi. Puerto Vallarta, sur le Pacifique, lui, c'est 85 vols par jour en moyenne. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de trafic là. Et San José del Cabo, qui est au sud de la péninsule de Basse-Californie, qui a 104 vols. Parce que tout l'ouest des États-Unis se retrouve souvent sur la côte du Pacifique. Et bon, c'est San José del Cabo. Et en comparaison, Acapulco, quand je vous disais que ça a périclité le tourisme, c'est 7 vols
Ciel.
par jour.
Alors, pourquoi est-ce qu'on entend parler moins de San José ici?
De San José del Cabo,
Ouais.
parce que on pense automatiquement, on se dirige plus, comme on vit dans l'est de l'Amérique du Nord, on s'enligne sur les Caraïbes, qui sont pas loin aussi. Le vol est pas très long, 3 heures et demie, 4 heures, on est rendu à Cancun.
D'accord.
Alors que bon, sur le Pacifique, c'est un petit peu plus long, puis souvent c'est un petit peu plus cher.
Est-ce qu'on se sent en sécurité au Mexique?
Ça dépend où on est. Mais il faut être prudent. Oui, il faut être. La question se pose, la question de la sécurité. On entend parler des cartels, on entend parler de répression, du crime et ainsi de suite. Mais écoutez, oui, il faut reconnaître que c'est un pays violent, le Mexique. Je vous donne encore quelques chiffres. Je sais qu'à la radio, les chiffres, ça passe pas très bien, mais je vous fais ça simple. Alors, au Canada, des homicides par tranche de 100 000 habitants, c'est 1,8 en moyenne par année. Aux États-Unis, c'est 5,5 par 100 000. Et au Mexique, tenez-vous bien, 23 par 100 000 habitants. Alors oui, c'est un pays violent.
Mais,
Mais il faut faire attention où on va. Acapulco a une très mauvaise réputation. À propos du crime organisé, vous n'allez pas vous promener dans n'importe quelle rue à n'importe quelle heure de la nuit, là. Alors, mais si vous restez dans des lieux sécurisés, vous avez accès à tous les services, c'est vivable.
On parle peut-être plus d'une violence entre gangs.
Oui, beaucoup. Parce que les cartels, pardon, les cartels, le crime organisé, ils sont pas fous non plus. Ils vont pas se mettre à abattre des touristes, hein. Ça va faire péricliter l'économie, puis il va y avoir moins d'acheteurs pour leurs produits. Donc, oui, c'est beaucoup entre gangs que ça se joue. Et lorsqu'on est partout au Mexique, là, il y a des patrouilles de la garde nationale, de l'armée, de la marine, de la police de chaque État. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patrouilles qui sont très visibles pour dissuader les criminels, d'une part, et pour aussi rassurer pas juste les touristes, mais les Mexicains aussi. Donc, il y a beaucoup de patrouilles. Bon, est-ce que c'est efficace? Ben, probablement.
Bon, très intéressant parce que je visais avoir une idée aussi, qu'est-ce qui nous entoure quand on est là-bas? Quelle langue on parle? Est-ce qu'on voit beaucoup de caravanes et de roulottes, tout ça? Qu'est-ce qu'on voit?
Des roulottes, il y en a, des motorisés, il y en a quelques-uns. Il y a quelques braves qui voyagent tout seuls. Moi, j'hésiterais à voyager par la route. Pardon. J'hésiterais à voyager par la route parce que c'est pas nécessairement qu'il va y avoir du crime partout, tout le temps, mais vous risquez d'avoir beaucoup plus des manifestations contre les disparus, des manifestations socio-économiques où les gens bloquent les autoroutes. Ça, c'est un sport qui est très fréquenté au Mexique. Maintenant, les grandes routes, les réseaux routiers, moi, je suis allé au Mexique la première fois. En 1971, j'avais été épaté de voir, en voiture, hein, et j'avais été épaté de voir les réseaux routiers, première classe. Donc, si vous vous tenez sur les autoroutes, oui. Puis si vous avez un motorisé, voyagez en convoi. La langue, si vous allez à l'épicerie du coin, ça va parler espagnol. Si vous allez dans un milieu touristique, si vous allez pour 2 semaines à Cancun, le personnel parle anglais. Ça, il n'y a pas de problème de se faire comprendre et à s'exprimer en anglais dans les endroits très touristiques. Mais pour le reste, ben, apprenez l'espagnol. C'est proche du français et c'est pas difficile à apprendre. Imaginez que vous décidez d'aller passer l'hiver au Japon. On va apprendre le japonais, c'est un autre sport. Hein. L'espagnol, c'est facile. L'espagnol, c'est facile.
Mais à l'occasion, vous entendez un petit peu de français, vous entendez sacrer quelqu'un?
Oh, ben le doux accent du parler québécois. Oui, mais ça, on dit, ah, tiens, il y a des Québécois
Ah,
ici. Oui,
OK.
ça, on entend un peu. On
D'accord,
entend un peu,
d'accord.
ouais.
Bon, on va passer à une autre étape de notre entrevue du côté politique cette fois-ci. Nous avons une nouvelle présidente. Est-ce que cette dame a une chance de faire quelque chose pour aider au niveau de la criminalité?
La criminalité, ouais. Son prédécesseur, Andrés López Obrador, avait, si vous voulez, une entente, un pacte de coexistence pacifique avec le crime organisé. On vous dérange pas, dérangez-nous pas. Ça a changé. Le gouvernement américain, dirigé par vous savez qui, a exigé que la frontière soit beaucoup mieux gardée, que le crime soit combattu, et la présidente, Madame Claudia Sheinbaum, a changé complètement de cap et a décidé de frapper les cartels. Et il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de descentes, de saisies de drogue. La musique a changé.
Mais cette histoire de cartel, ça dépasse le Mexique. Au départ, c'est venu d'Amérique du Sud. C'est un gros réseau, là, peut-être, là.
Oui, très gros réseau. Oui. Aux États-Unis, au Canada, ils ont des antennes, ils ont des collaborateurs, des associés, appelez-les comme vous voulez. Ils sont en Europe également. Non, ils visent la planète, c'est pas compliqué. Ils sont très puissants. Ouais. Mais c'est une partie de la réalité. Il y a la violence de tous les jours aussi, hein. Les féminicides. Le nombre de femmes qui sont assassinées, c'est vraiment décourageant. C'est un pays dur. C'est un pays dur, le Mexique. Mais les États-Unis sont un pays dur aussi. Il n'y a que le Canada qui est tranquille en Amérique du Nord.
Ouais, ce qui renforce ma prochaine question, qui est au sujet de l'élection de Claudia Sheinbaum. Une femme et une femme de gauche, alors que tout tourne à droite, et dans un pays où c'est assez rough, peut-être assez macho. Alors, comment est-ce qu'elle a pu accéder à la présidence?
Il faut comprendre une chose, qu'il n'y a pas juste le phénomène Sheinbaum, qui n'est pas une politicienne flamboyante comme son prédécesseur. Son parti, c'est Morena. C'est le Mouvement pour la Régénération nationale. C'est un parti populiste, de gauche, centre-gauche, assez à gauche, mais qui est pas idéologique, qui est plutôt pragmatique, plus pragmatique qu'idéologique. D'où une partie de son succès, à mon avis. Madame Sheinbaum, a quand même, elle était la mairesse. Écoute, d'abord, pour la décrire, là, c'est une scientifique. C'est un ingénieur en environnement. Elle a étudié en Californie quelques années. Ensuite de ça, elle a été l'adjointe de l'ancien président. Elle a été mairesse de Mexico. Mairesse de Mexico. Mexico a de l'agglomération, c'est 30 millions à peu près, hein? Bon, c'est presque la population du Canada. Et elle a du talent. Depuis qu'elle est là, on voit que, bon, elle est capable de bien jouer ses cartes. Il y a aussi que, comment est-ce qu'elle peut s'imposer? Elle est très populaire. Son prédécesseur était très populaire pour une bonne raison. Les anciens, les vieux partis politiques, ont dirigé le Mexique pendant tellement longtemps. Il y a eu tellement de corruption. L'ancien président, là, il y a quelques années, son ministre de la lutte à la drogue, la lutte au crime organisé, est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis, à New York, pour 25 ans, pour corruption. Alors, la corruption, la violence, c'est un problème. Mais la corruption, c'est un problème qui est pire. Parce que c'est culturel, c'est dans les mœurs, c'est dans les façons de faire. Et depuis López Obrador, depuis Morena, ce n'est plus le cas. Il y a toujours de la corruption. Mais il y en a moins, et il y en a beaucoup moins au haut niveau, au plus haut niveau. Donc, le soutien populaire est infaillible, est très fort. Avec les péripéties commerciales avec Donald Trump, ben la présidente a 80% d'approbation. Ça peut faire l'envie de beaucoup de politiciens, ce monsieur.
Alors, venons-en à l'effet Trump. Alors, que peut-on dire de l'effet Trump au Mexique?
Ben, on en parle beaucoup partout, comme partout sur la planète. Le président américain a ménagé le Mexique. Bon, il a fait des déclarations, puis toutes sortes de menaces et d'intimidations, son jeu habituel. Mais dans les faits, il a évité de braquer le Mexique parce que, justement, Mme Sheinbaum agit pour contrer l'exportation vers les États-Unis de fentanyl et autres drogues. Elle s'y prend avec vigueur au crime organisé. Donc, ce n'est pas une deux de pique. Et il respecte un adversaire qui peut respecter parce qu'il ne peut pas y marcher dessus.
On parlait du mur. Bon, il y a des
Oui,
petits morceaux.
l'effet Trump.
Il y a peut-être des petits morceaux de mur de créer déjà, mais oui, la question générale, c'est l'effet Trump. Et me poser la question, le mur, à quelle hauteur, quelle grandeur, est-ce qu'il y a juste 1 km de fait ou
Non, non, il y en a quand même plusieurs kilomètres qui avaient
OK.
été commencés par Obama.
Oh,
Il a commencé par Obama, Biden en a fait encore un bout, et
OK.
là, Trump va continuer à le faire. Mais bon, le mur, oui, ça fait une belle image, on a beaucoup parlé, mais c'est moins à la mode. Ça peut revenir comme diversion quand M. Trump ne voudra plus entendre parler des tarifs, il va parler d'autres choses, ça peut être le mur. Mais le Mexique risque d'avoir de sérieux problèmes s'il ne peut pas exporter beaucoup aux États-Unis. Et là, il faut parler d'économie. Je vais vous parler un petit peu d'économie pour comprendre un peu la dynamique. Ben, d'abord, il faut comprendre que le Mexique, c'est un pays de 130 millions d'habitants. Bon, c'est quand même une taille respectable. Ce n'est pas un pays pauvre, ni un pays riche. C'est un pays en voie de développement. Le Mexique, là, écoutez, les belles plages de Cancun, puis de la Riviera Maya, là, le Mexicain basané avec son sombrero sur le nez qui fait une sieste dans un village poussiéreux, ça existe, mais c'est pas ça le Mexique. C'est un pays industriel, très industriel. C'est la huitième économie au monde. C'est sérieux, là. OK? C'est le plus grand partenaire des États-Unis devant la Chine, maintenant. Alors, il n'y a pas juste le tourisme, là. Il y a l'agriculture. Beaucoup, beaucoup d'agriculture. L'industrie automobile, très, très importante. Des pièces, des usines d'assemblage, d'assemblage de produits électroniques également, pharmaceutiques. C'est relativement diversifié. Dans le Nord, particulièrement, c'est très industrialisé. On oublie ça. On a des clichés sur le Mexique, mais c'est une puissance économique. Donc, il y a des riches. Il y en a quelques-uns. Il y a une grosse classe moyenne. Ça, on n'a pas toujours conscience de ça, à moins de voyager, de connaître un peu le Mexique. Il y a une classe moyenne d'à peu près 20 à 30 millions. C'est difficile à cadrer. 20 à 30 millions, c'est à peu près la classe moyenne du Canada. Donc, ça a un poids économique, hein. Et il y a beaucoup de pauvres, je l'ai dit, mais le parti au pouvoir, Morena, s'est occupé beaucoup des pauvres. Relever le salaire minimum, donner de l'argent aux plus pauvres, de l'assistance sociale qui n'existait à peu près pas. Les retraites fournies par l'État, la pension, il n'y en avait pas. Morena a fait ça. Alors, vous comprenez que pourquoi la présidente Sheinbaum a 80% d'appui, c'est que les gens apprécient. Les gens l'apprécient, apprécient ce que fait le gouvernement. Ce qui fait toujours la bonne chose, le gouvernement, ben, les économistes sont partagés, bien sûr, mais je veux dire, les électeurs, ils sont unanimes. Ils sont pas unanimes, mais presque.
Ciel, que de beaux éclairages sur un pays qu'on ne connaît pas très bien ici. En tout cas, personnellement, j'en ai appris tellement. Alors, je remercie beaucoup Alain Charbonneau de ses lumières. Serge Bellemare au micro. À la production, Julio César Santander sur Radio IDS Montréal.